accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Pas de trêve de Noël pour le Brexit. Les parlementaires se sont remis au travail. Boris Johnson présente ce vendredi son accord de sortie de l'Union européenne à la Chambre des communes. Grâce à la nouvelle majorité des conservateurs, l'adoption de l'accord et donc l'officialisation du Brexit avant le 31 janvier ne fait plus beaucoup de doutes. Mais c'est un calendrier très serré, une carte de vœux très particulière en cette période de fête. En Angleterre, justement, Noël est très important et il y a plusieurs traditions très british à respecter. Notre correspondante Marie Billon nous les dévoile.
Deux d'entre eux sont blancs comme neige. C'est la couleur de leur robe, peut-être pas celle de leur âme. Ces deux chevaux de trait sont alignés devant l'entrée du palais médiéval d'Hampton Court pour être bénis par un prêtre.
Lord, let these horses have your blessing.
Cette bénédiction a eu lieu mi-novembre, une exception pour ces chevaux qui sont les descendants symboliques des destriers que le roi Henri VIII Tudor, le plus fameux des occupants d'Hampton Court, a commencé à élever ici il y a plus de 500 ans. Pour tous les autres chevaux du Royaume-Uni, le jour de la bénédiction, c'est le 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne. Une tradition toujours en cours aujourd'hui, même si elle est moins strictement observée qu'au XVIe siècle, quand un cheval était un outil de travail primordial. À une dizaine de kilomètres de là, un autre château, néo-gothique celui-ci, Strawberry Hill House. C'est là que deux historiennes, Siobhan Clarke, qui travaille à Hampton Court, et Alison Weir, donnent une conférence sur leur livre « Un Noël Tudor », les festivités à la cour et dans les chaumières au 15e et 16e siècle.
Certaines des traditions de l'époque existent toujours aujourd'hui. On se rassemblait en famille et entre amis. Il y avait un repas de Noël et des cadeaux, mais le premier de l'an plutôt. Et le personnage du Père Noël date de cette époque, voire même un peu avant. Il s'appelle parfois Père Noël, mais plus souvent Capitaine Noël, Vieux Noël. Il était habillé en vert et brandissait un bâton pour intimer les gens à respecter les bonnes traditions de Noël.
Le Père Noël médiéval faisait partie des mummies, ces pièces de théâtre itinérantes proposant de jouer des fables en tapant aux portes des habitations, un peu comme aujourd'hui le font certaines chorales. Les mummies sont devenues les pantomimes. De nos jours, ces spectacles extravagants vaguement inspirés de contes de fées dans lesquels le personnage principal, The Dame, la dame, est toujours joué par un homme.
Le 15e siècle est aussi le grand âge des chants de Noël et beaucoup de ceux que nous connaissons aujourd'hui sont nés à cette époque. King Wenceslas ou While Shepherds Watch Their Flock ont été composés à ce moment-là, même si les paroles ont été rajoutées plus tard.
Certaines traditions de l'époque des Tudors, par contre, ne feraient plus vraiment recette aujourd'hui.
Le 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents quand le roi Hérode fait massacrer les nouveau-nés pour être certain de tuer le bébé Jésus. Pour commémorer cela, les enfants devaient être fouettés. Mais c'était symbolique. Les parents leur donnaient une petite tape. Et le reste de la journée, c'était la fête. Ils avaient le droit de jouer à l'église.
Il faut aussi imaginer des rues bien décorées. Branches de houx, gis et lierres verdoyants étaient posées sur les façades des maisons. Et à l'intérieur, il y avait un festin. Noël était une fête communautaire plus que familiale au XVe siècle. Les plus aisés offraient de bons repas à ceux qui n'en avaient pas les moyens, explique Siobhan Clarke.
Ils mangeaient des gruaux à la prune, que les Victoriens transformeront en Christmas pudding, comme on le connaît aujourd'hui. Les mince pies, des tartelettes sucrées au raisin de nos jours, étaient faites avec de la viande. On les appelait tartelettes de la nativité et il y avait un petit Jésus en pâte sur le dessus. C'est pour ça que plus tard, les puritains les désapprouveront et les interdiront.
Les puritains au XVIIe siècle iront même plus loin. En 1647, le Parlement vote une loi qui rend Noël, et ses célébrations bien sûr, illégales. Rien dans la Bible ne justifie ces réjouissances annuelles et surtout pas les excès qui vont avec, dit-on. Noël restera illégal en Angleterre jusqu'en 1660, à la restauration de la monarchie. Certaines traditions ont alors été perdues, comme le Lord de l'Anarchie, un personnage qui avait droit à toutes les espiègleries pendant les fêtes et qui devait inciter les autres.
You're now standing in the front entrance hallway of Dickens's house at 48 Doughty Street.
Il y a une baisse dans l'enthousiasme pour Noël pendant la période géorgienne au XVIIIe siècle. Un vide qui laisse une grande place aux victoriens et surtout à Charles Dickens, le maître du Noël britannique. Nous sommes justement au 48 Doughty Street, l'une des maisons où le romancier a vécu et qui est aujourd'hui un musée qui lui est consacré. Les trois étages de la demeure ont été décorés comme ils l'auraient été à l'époque. Du lierre sur les meubles, sur la rampe des escaliers aussi, du hou coincé derrière les cadres, Louisa Price est l'une des commissaires du musée.
Avec un conte de Noël et ses autres livres sur la saison, Dickens a vraiment popularisé beaucoup des traditions que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, en 1850, il a écrit Un arbre de Noël. Il y a une scène où il décrit tout ce qu'on accroche à l'arbre de Noël et les jouets qui sont à ses pieds.
Au premier étage de la maison de Dickens se trouve aussi un exemplaire de la toute première carte de vœux britannique. On y voit un repas familial, elle date de 1843. Encore aujourd'hui, un adulte envoie une vingtaine de cartes de vœux par an et celles qui sont reçues sont exposées sur les meubles ou alors accrochées à des ficelles sur les murs ou en travers du salon. Sur les cartes de vœux aujourd'hui, on a souvent un paysage bucolique enneigé. Le Noël blanc reste le Noël idéal et selon Benjamin, antiquaire, tout ça vient du romancier.
Quand Dickens était enfant, vers les années 1820, il y a eu un mini âge de glace. Toute la planète s'est refroidie. C'est parce qu'il a connu des Noëls blancs dans son enfance que Dickens a popularisé cette image.
Mais Charles Dickens lui-même a fini par voir rouge. Forcé par son éditeur à publier une nouvelle de Noël chaque année, il en a rapidement eu assez. Et la fête devenant de plus en plus une occasion commerciale, le romancier a terminé sa vie en critiquant sévèrement le phénomène qu'il a participé à créer.
À chacun ses traditions. Au Portugal, il n'y a pas de sapin, climat trop méditerranéen. Alors pour décorer les maisons à Noël, les Portugais installent des pins dans leur salon. Une petite entreprise a eu l'idée de proposer ses conifères à la location. Ça fait 3 ans que l'opération existe et elle permet le recyclage de l'arbre après les fêtes. Une partie des bénéfices est reversée à une caserne de pompiers volontaires. Une façon éco-responsable de consommer à Noël. Explication de Marilyn Darcy, notre correspondante à Lisbonne.
Il ne dépasse pas 1,80 m, socle compris. Ces pins ont la bonne taille pour se loger dans les appartements et les maisons pour les fêtes de fin d'année et recevoir guirlandes, boules et étoiles décoratives. Ils remplacent avantageusement le sapin, une espèce qui n'existe pas au Portugal, pays au climat méditerranéen. C'est une start-up portugaise qui a eu l'idée de proposer la location des pins du pompier. Une opération qui répond à 3 objectifs. D'abord, on agit sur la prévention des incendies. Les pins proviennent de coupes de prévention réalisées sur les plantations forestières afin de réduire le combustible sur place. Ces pins sont d'ordinaire sacrifiés pour permettre une meilleure croissance des autres arbres bien alignés. Ensuite, l'opération Pain du pompier consiste à aider concrètement une caserne de pompiers volontaires. Un quart des 20 euros de la location est reversé afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'acheter du matériel, des gants, des masques, des chaussures pour lutter plus efficacement contre les incendies dans un pays où 80% des pompiers sont volontaires. Leur équipement provient essentiellement de leurs associations et de dons. Toute aide est donc bienvenue. Enfin, dernier objectif de l'opération, stopper la prolifération de pins jetés dans les rues après les fêtes. L'arbre, une fois récupéré, est transformé en biomasse dans une usine spécialisée. La société Renters est une plateforme spécialisée dans la location de toutes sortes d'objets et son pain-pompier contribue à sa bonne image. Elle s'occupe de la logistique, trouve des dépôts en ville et livre même à domicile contre un supplément. 3500 pains-pompiers ont été loués cette année et la demande dépasse l'offre. L'opération pains-pompiers a débuté à Noël 2017 après les terribles incendies qui cette année-là avaient fait 120 victimes et provoqué un traumatisme collectif. Le pain de Noël brille dans les foyers portugais et son incandescence, pour une fois, est salutaire. I'm a photographer, I'm a filmmaker.
I'm a photographer. I'm a painter. I'm a filmmaker. I'm a photographer.
Entre la Hongrie et la photographie, c'est une histoire d'amour. Entre les photographes hongrois et la France, c'est aussi une histoire d'exil. C'est ce que raconte en ce moment une exposition du musée d'histoire de Budapest, intitulée « Au revoir ». Elle présente les œuvres originales d'une trentaine de photographes hongrois qui ont quitté leur pays pour la France après la Première Guerre mondiale. Certains comme Robert Capa ou André Kertész sont très célèbres, d'autres sont quasiment inconnus du public hongrois. Reportage de Florence Labruyère.
André Kertész, Bracha et Robert Capa, ces grands photographes hongrois ont tous quitté la Hongrie pour s'installer à Paris, même si certains, comme Robert Capa, ont sillonné le monde entier. Julia Cserba, commissaire de l'exposition Au revoir.
Parmi les photos de Robert Capa, il y en a une qui représente des hommes et des femmes assis à une terrasse de café à Berlin, au milieu des ruines. Les gens bavardent en souriant. Capa a pris la photo au lendemain de la libération de la ville. Il était toujours au bon endroit et au bon moment. Son talent, c'est d'avoir capté cet instant où la vie reprend, où la gaieté et l'insouciance refont surface après le drame.
Toutes les photos sont des tirages originaux. La plupart viennent de collections françaises, comme celle du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône ou de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Les deux commissaires de l'exposition, Gabriela Tché et Julia Cserba, présentent aussi des photos d'André Kertész qui n'avaient jamais été exposées. Elles ont été retrouvées par hasard dans des archives.
André Kertész a pris ses clichés en 1921 en Hongrie. On y voit des amoureux dans l'herbe, un couple en train de danser dans un jardin et aussi le frère de Kertész. Des photos de famille, toutes simples, mais qui rayonnent de lumière, de bonheur. Elles révèlent déjà le talent, le génie de Kertész.
Pourquoi ces photographes ont-ils quitté la Hongrie après la Première Guerre mondiale ? Explication de Julia Cserba.
La plupart des jeunes photographes étaient de gauche. Après l'échec de la révolution communiste de 1919, il y a eu une répression en Hongrie. Capa, par exemple, a fait de la prison. Car pendant la révolution, il était allé dans les quartiers ouvriers faire des discours. Il était vu comme un fauteur du trouble. Alors il a été arrêté. Ensuite, il a fui et beaucoup d'artistes ont quitté la Hongrie.
Une deuxième vague d'émigration a lieu dans les années 30. L'antisémitisme qui sévit alors en Hongrie pousse les artistes, dont beaucoup sont d'origine juive, à s'enfuir. L'exposition présente aussi des photographes hongrois moins connus que Kertész ou Brachai et qui se sont installés à Paris, comme Emmerich Feher, William Klein ou André Steiner. Pour le public budapestois, c'est une découverte. Marcella, étudiante de 25 ans.
Je connaissais bien sûr Capa, Brassai, André Kertész et deux ou trois artistes, mais les autres photographes, ils ne sont pas connus en Hongrie. Je n'en avais jamais entendu parler.
Eva Vamos est journaliste culturelle. Grâce à cette exposition, elle découvre Nora Dumas, qui a promené son appareil dans la France rurale des années 60, et François Collard, qui a photographié les ouvriers français dans les années 30 avec un œil de documentariste.
On voit des travaux de construction et on voit des usines avec des ouvriers, un porteur de rails aussi. Ça devait être un travail dur et ça se voit bien sur, je dirais, ce buste. Ça donne l'impression presque d'une statue, mais c'est un homme bien vivant que l'on voit sur la photo de François Collard.
Des visites guidées de l'exposition sont organisées en anglais et en français. Une aubaine pour les touristes de passage comme Isabelle Volon.
C'est un pays qui a une relation particulière à la photo. J'ai lu quelque part que la Hongrie des années 20 était un des pays où le ratio nombre d'appareils photo sur habitant était le plus élevé d'Europe, voire le plus élevé d'Europe. Donc ça a confirmé mon impression que la Hongrie avait une histoire particulière avec la photo.
L'exposition présente aussi de jeunes photographes hongrois vivant actuellement en France, comme Balint Pernetzi, qui travaille uniquement avec son téléphone portable. Ce jeune artiste a été primé au Salon de la photo de Paris en 2015.
En Croatie, les murs des grandes villes sont devenus des exutoires. Les graffitis haineux contre les Serbes et les Juifs se multiplient et les autorités semblent un peu trop lentes pour les effacer. Alors depuis quelques mois, des artistes transforment ces messages de haine en messages d'amour, juste en ajoutant ou en supprimant une lettre. Simon Rico.
Dans la langue croate, il suffit de rajouter une lettre pour que l'injonction « tue un Serbe » devienne « embrasse un Serbe » ou de supprimer un accent pour que « je hais les murs » remplace « je hais les juifs ». Voilà qui a donné des idées à plusieurs artistes, alors que d'innombrables murs de Croatie sont couverts de graffitis appelant à la haine raciale. Il faut dire que les idées d'extrême droite ont le vent en poupe ces dernières années dans le pays. Décomplexés, certains occupants des plus hautes fonctions de l'État n'hésitent plus à les relayer. En 2016, le ministre de la Culture était un révisionniste convaincu, et la présidente actuelle, Kolinda Grabar-Kitarovic, n'a jamais voulu critiquer ceux qui continuent de faire le salut Ustashi, l'organisation pro-nazie qui gouvernait la Croatie pendant la Seconde Guerre mondiale. Constatant que les autorités municipales n'effaçaient que trop rarement, ou en tout cas très lentement, ces graffitis racistes, des artistes se sont mis à ajouter ou à modifier les lettres de ces tags pour les transformer en messages positifs. C'est une réaction des plus normales, explique l'un d'eux, Jure Jupcic, interrogé par Al Jazeera Balkan, se désolant qu'une chose si simple soit mentionnée dans les médias. C'est révélateur de la situation, conclut-il, navré. Début 2019, sa correction du graffiti « tue un Serbe » sur la façade d'un bâtiment officiel de sa ville de Zadar lui avait valu une plainte anonyme pour dégradation. Elle a finalement été retirée. Ces initiatives, qui restent isolées, s'inspirent du travail d'autres artistes internationaux, comme l'italien Cibo, qui transforme les graffitis haineux en images de nourriture, ou la berlinoise Irmela Schramm, qui change depuis 30 ans les croix gammées et autres messages de haine en grand cœur rouge. Des initiatives similaires ont aussi eu lieu côté serbe et leur large diffusion sur les réseaux sociaux montre que les plus jeunes des Balkaniques sont nombreux à vouloir tourner la page des guerres passées et regarder ensemble de l'avant.
Terminons cet accent d'Europe en musique avec la chronique de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Alexis.
Aujourd'hui, vous nous parlez et nous faites écouter une chanteuse sahraoui exilée en Espagne.
Aziza Brahim publie un cinquième album qui rend compte à la fois de l'histoire de son peuple et de son propre parcours. Son peuple, ce sont les Sahraouis. Aziza Brahim est née en 1976 dans un camp de réfugiés de la région de Tindouf, en Algérie, où sa mère avait fui l'occupation marocaine du Sahara occidental, et son parcours l'amène très tôt sur les routes pour accompagner des musiciens sahraouis sur des tournées en Afrique de l'Ouest, puis en Europe, embrassant ainsi une tradition familiale puisque sa grand-mère était poète et sa mère chanteuse. En 2000, Aziza Brahim s'installe en Espagne, où elle vit toujours, à Barcelone. C'est là qu'elle a conçu Sahari, son nouvel album en collaboration avec la musicienne catalane Amparo Sanchez. Au fil de morceaux chantés en espagnol ou en hassania, la langue originelle des Bédouins, elle évoque l'exil et la lutte pour les droits des Sahraouis sur des musiques où se croisent influences européennes et africaines avec notamment l'utilisation du tabal, percussion au cœur de la tradition sahraoui.
Aziza Brahim, merci d'avoir écouté Accent d'Europe, une émission réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. Sachez que vous pouvez réécouter et partager l'émission en allant sur notre site rfi.fr. À partir de lundi, vous retrouverez les meilleurs moments d'Accent d'Europe. À bientôt.